commencé Conversation le 8 septembre 2016, je voulais vous partager des histoires de vie incroyables. Des personnes qui se lèvent tous les matins avec une obsession, une volonté de changer les choses. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter cette conversation avec Laure Bouguin. Elle est nantaise et a lancé la marque Ocaran, une marque de cosmétiques à base de chanvre, un sujet très mal documenté en France, très vite caricaturé. Laure va nous expliquer pourquoi le chanvre va transformer la cosmétique, mais aussi la médecine, la mode et plein d'autres domaines. Je vous laisse avec ce podcast, merci pour vos retours, bonne écoute. Bonjour Laure.
Des maths romains.
Alors tu mets directement l'accent sur le breton, c'est-à-dire qu'on commence directement, on parle breton. On parle breton parce que tu as créé une marque qui s'appelle Ocaran.
Exactement, qui veut dire je vous aime en breton.
C'est quand même hyper mignon. Je vous aime en breton. Ocaran. Laure, t'es qui ? On va commencer par cette question totalement générique qui me permet aussi de voir comment, sur quelle langue tu veux qu'on parte pour te présenter. Comment tu te présentes quand t'es dans un environnement et qu'on te demande de te présenter ?
De manière très entrepreneuriale, c'est hyper cliché, mais du coup, je dis je suis la fondatrice de Ocaran et j'explique ce qu'est Ocaran et après, j'oublie moi. Je parle plus de moi, je parle que de la boîte.
Donc finalement, tu as monté une boîte pour ne plus qu'on te parle de toi.
Je me définis par ça.
Mais alors toi, du coup, t'es qui ?
Sur l'origine géographique, je pense qu'on a un peu ciblé. J'ai grandi en Bretagne, j'ai grandi à côté de Rennes. Et après, j'ai évolué vers Nantes, donc qui est en Bretagne d'après moi. Mais bon, après, chacun, c'est...
C'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
Nous n'ouvrirons pas ici, mais effectivement.
Et du coup, comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis une femme, j'ai 28 ans. Et puis je suis entrepreneur et en France on se définit quand même beaucoup par sa profession, je pense.
Oui, c'est même très américain, je trouve, ce truc-là. Bientôt on va être sur le combien tu gagnes.
Dans pas longtemps, on sera là-dessus. Si ça permettait de casser quelques préjugés sur l'argent et clichés sur l'argent, ce serait pas mal.
Il y a un petit peu de chemin, mais ce sera ton second combat à partir de...
Non, parce que parler d'argent toute la journée, clairement, ça me fatiguerait.
Alors, le chiffre d'affaires d'Ocaran, c'est maintenant. T'as monté Ocaran il y a quelques années.
Ouais, en fait, ça dépend si tu prends le projet au moment où j'étais en études et où je travaillais dessus, ou si l'immatriculation de la société, qui était le 13 mai 2015, acte vraiment la création de la boîte.
Mais parlons de toi, parce qu'Ocaran, en fait, ça vient de toi au tout départ.
Ouais.
L'histoire a débuté quand t'étais toute petite. Et que tu étais dans le jardin de tes grands-parents.
Ouais, alors l'origine de l'intérêt pour le chanvre, moi je le mets un peu plus tard. Ce qu'on raconte et ce qui est vrai, c'est que mes grands-parents cultivaient le chanvre. Donc le chanvre, c'est exactement la même plante que le cannabis. La variété, c'est Cannabis sativa. Et c'est légal en France, il y a moins de 0,2% de THC. Et en fait, comme beaucoup de gens, quand tu es agriculteur, en tout cas à cette époque, maintenant c'est un peu moins le cas avec la monoculture, mais en fait tu vas cultiver du chanvre, mais tu vas avoir des lapins, tu vas avoir des bovins. Ils n'étaient pas monoculture ou mono-élevage, mais en tout cas, ils faisaient du chanvre. Et moi, c'est une plante sur laquelle j'ai jamais eu beaucoup, beaucoup de préjugés. Mais l'idée d'en faire quelque chose, ça m'a traversé l'esprit que hyper tardivement. Parce que même l'idée juste d'être entrepreneur, en fait, ça m'est venu mais très, très sur le tard.
Mais quand tu as su que tout d'un coup, le chanvre et le cannabis étaient pas légal, même si là, effectivement, cette culture-là, c'est légal à moins de 0,2 de THC. Tu t'es dit quoi ? Mes grands-parents, c'est des gangsters, c'est ça ?
Ou non.
C'est la première fois, tu te souviens, quand on t'a dit « Ah bon ? Tu cultives du chanvre, mais en fait, vous êtes des fous dans votre famille ?»
Non, parce qu'en fait, en France, on a bien séparé les mots pour séparer les idées. Donc on dit « chanvre », c'est plutôt ce qui est industriel, donc la tige qui va faire de la fibre, aussi bien pour faire du textile que de l'isolation, ou la graine pour la partie un peu plus alimentation, cosmétique. Et en fait, nous, on dit « cannabis » juste pour parler de la fleur. On découpe une plante, en fonction de sa partie, on utilise un mot. Donc en fait, les choses ont toujours été très, très séparées, en tout cas en France, dans notre langage commun. Et donc moi, j'avais complètement dissocié pour la simple et bonne raison que la fleur, les agriculteurs la jettent. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de la garder. Ils n'ont pas le droit de l'exploiter.
Ce qui est intéressant quand tu parles de Ocaran aujourd'hui, c'est que alors, c'est une marque cosmétique où tu utilises le chanvre comme produit naturel pour développer des produits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu dis finalement Ocaran, c'est un peu un combat avant tout, une mission. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que ta mission, c'est quoi ? C'est transformer l'image qu'on a aujourd'hui du chanvre, ou est-ce que finalement, c'est transformer l'industrie cosmétique pour qu'elle soit plus écologique, plus responsable ? Parce qu'il y a un peu les deux missions, en fait, chez Ocaran. T'arrives à choisir, ou est-ce que c'est une réponse un peu normande et c'est un peu les deux ?
Non, je vais faire pire que ça. Il y a une troisième mission qui chapeaute ces deux-là. En fait, le chanvre, ce qui m'a toujours bluffé, c'est sa capacité de la racine à la fleur à pouvoir changer la manière dont on consomme et la manière dont on produit. On peut produire de manière beaucoup plus responsable, on peut se faire du bien, se soigner. On parle de chanvre thérapeutique comme on parle de cannabis médical, c'est exactement la même chose. Et donc moi, la mission, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut déstresser un peu tout ça. Donc déstresser les gens par des produits de soins, déstresser notre planète en produisant différemment et déstresser notre rapport à la consommation qui est complètement compulsif et donc avec une nouvelle manière de proposer des produits un petit peu moins dans le consumérisme.
D'ailleurs, vous avez un hashtag, hashtag NoStress.
Ouais.
Que vous utilisez. C'est intéressant parce qu'il joue à la fois sur l'image que l'on a du chanvre, nos stress, en gros, disons-le familièrement, fume un joint, ça ira mieux.
Ouais.
Même si vous, vous êtes effectivement sur ce côté de la plante pour des produits cosmétiques. À partir de quand tu as découvert que le chanvre avait des propriétés plutôt intéressantes dans ce domaine de la cosmétique? Parce que maintenant que tu as défini ce combat-là,
ouais,
pourquoi la cosmétique? Pourquoi t'es rentré là-dedans?
Ça, c'est un des trucs que j'ai le plus de mal à expliquer. Ce que je dis, parce que c'est pour moi l'explication la plus lucide, c'est que quand j'avais 18 ans, j'ai vu un reportage un peu type Zone Interdite ou Capital, mais je ne l'ai jamais retrouvé.
Avec Bernard de la
Gardière. Alors, marchait... en tout cas, il y avait du sensationnalisme.
Okay.
Et c'était en Californie. Et en gros, c'était une petite nana qui faisait des shampoings au cannabis à l'américaine, dans son garage, elle avait employé toute sa famille. Enfin, la belle success story. Et je m'étais dit, waouh, nous, on peut faire ça avec le chanvre aussi, c'est pareil. Mais je ne m'étais pas dit, moi, je vais monter cette boîte-là. Je m'étais dit, ça, c'est, oui, c'est faisable n'importe où et c'est chouette, c'est une belle histoire. Mais le cheminement jusqu'à me dire, en fait, je peux monter une boîte parce que ça fait partie logiquement d'un cursus que je suis capable d'accomplir, ça, j'ai mis 4 ans de plus, 3, même 5 à vraiment l'intégrer, tu vois. Je m'étais jamais définie comme entrepreneur.
C'était quoi le déclic alors?
Eh bien, l'autre déclic, en fait, donc moi j'ai fait un parcours...
Parce que là, tu parles effectivement de cette émission un peu Zone Interdite, mais il y a un moment donné, il fallait mettre le premier pas, quoi.
Ouais. En fait, j'ai fait un parcours hyper classique de bon élève, prépa, école de co, et je suis arrivée dans une école de commerce à Nantes qui s'appelle Audencia, et en deuxième année, on devait faire un business plan. On avait un cours d'entrepreneuriat, on nous demande de faire un business plan, et j'avais dit au groupe qui était avec moi, j'ai une idée, on va faire des cosmétiques au chanvre. Et donc, je raccroche avec l'idée ancienne. C'est, alors, à l'époque, j'avais appelé ça Tetra Paris Soin, ce qui n'a absolument aucun sens parce que c'est Tetra pour tétrahydrocannabinol, THC,
ah oui.
Alors que justement, il n'y a pas de THC dans les produits. Paris, parce qu'au cosmétique, tu mets toujours un Paris quelque
évidemment
part. Et puis soin, parce que c'était du soin. Et donc, c'était un business plan sur une marque de soins vendue en pharmacie. Et donc moi, j'étais assez contente du truc. On s'est fait complètement bâcher par le prof. De toute façon, les autres, c'était pas non plus vraiment impliqué, mais du coup, j'étais un peu vexée. Et après, j'ai fait mes stages un peu en fonction. Donc j'ai fait un stage dans une agence de design spécialisée cosméto à Paris. Et à ce moment-là, j'ai découvert un mouvement qui s'appelle le MOVJ, Mouvement des Jeunes Entrepreneurs, où tu déposes ton business plan, t'es retenu, et là, t'as des marques assez célèbres comme Fago ou Marlette qui en sont sorties.
D'accord.
Et donc moi j'avais déposé mon BP pour dire on va voir ce qu'eux en pensent, tu vois, si c'est vraiment de la merde ou pas. Et donc j'ai pas été retenue, mais ils m'ont quand même invitée à la soirée à la Gaîté Lyrique pour aller voir la remise des prix. Et donc sur scène, je vois des gens de mon âge, majoritairement des mecs, mais avec des idées, c'était de la fringue, c'était de la bouffe, hein, ça allait pas révolutionner le monde non plus. Et pourtant, le mec sur scène disait, oui, c'est les entrepreneurs de demain, c'est la jeunesse, c'est eux qui vont sauver le monde. Mollo, on parle de préparation de gâteau, tu vois, c'est pas non plus... Je dis, mais le chanvre, lui, il peut faire des choses.
Moi, je vais changer le monde, vous allez voir.
Je dis, s'ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Et là, après, comme j'étais pas terrible en finance, je me dis, mon second stage, il faut absolument que je le fasse en finance parce que si je veux monter ma boîte, je dois être capable de structurer. Donc, j'allais démarcher tous les fonds d'investissement pour pouvoir bosser en fonds. Et puis, personne ne m'a pris. Donc, je me suis retrouvée en finance chez Chanel, mais c'était pas mal, en contrôle de gestion.
Sur le papier, en tout cas, c'est plutôt pas dégueulasse.
Hein. Ouais, mais après, en vrai, techniquement, tu fais du tableau Excel de gestion de stock. Tu
n'as pas d'intelligence financière sur...
Un tout petit peu de ce qu'ils appellent BI, Business Intelligence, sur de l'analytique. Mais bon, je pense que j'aurais plus appris autre part. Mais bon, c'était intéressant. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que je ne ferais pas du tout une marque de luxe. Que
okay.
Je voulais faire tout sauf ça.
Ok. Intéressant. C'était quoi tes retours? C'était quoi les trois trucs où tu t'es dit, voilà, les trois éléments que je ne ferai jamais dans ma boîte?
Ben, en fait, au début, j'ai bossé à Paris, à la direction financière Mode Europe. Et après, comme je me suis retrouvée avec un Erasmus extrêmement court, 6 semaines, j'avais 6 mois de libre. Et donc, je suis partie avec eux à Dubaï sur la mise en place de la BI. Il y avait le défilé Paris-Dubaï. Donc là, j'étais dans le temple du capitalisme moderne, surconsommation. En gros, il n'y avait pas de culture. À un moment, je cherchais des livres en espagnol. Impossible de trouver un magasin qui fournissait des livres en espagnol. La langue, enfin, voilà, ça passe au-dessus, t'as pas de musée, enfin, t'as un musée à Bourg-Dubaï qui est microscopique. Enfin, cette absence totale de culture m'avait vraiment marquée. Et là-bas, en fait, tu sors pour consommer. Donc en fait, tu peux pas marcher dans la rue et te balader tranquillement sans être dans un mode de consommation. Tu vas de ton hôtel à... parce que tu bois dans les hôtels, les bars et tout, c'est dans les hôtels, au restaurant, au bar, au bord de la plage, à chez toi en voiture. Tu vois, t'as un mode de vie qui est entièrement tourné autour de la consommation. Et il est où ce moment où tu flânes, où tu déstresses, où tu penses à rien, où tu te vides, où tu es dans la nature? Il est quasi inexistant. Et donc ça m'avait beaucoup marqué et j'étais trop contente de revenir à Nantes. Et à Nantes, j'ai soufflé en majeur. Je me suis dit, waouh, c'est... En fait, avant, je ne savais pas où j'habitais. Je ne savais pas à quelle ville j'appartenais. J'avais bossé à Paris en stage, j'étais déprimée, j'étais devenue alcoolique, je n'étais pas bien. Parce que je n'avais pas de sens à ma vie.
Et ça va mieux. Tu passes un peu de temps à Paris, là, ces
ouais, années. Alors justement, je voulais pas retourner à Paris. Bon, il se trouve que maintenant, on a un bureau à Paris. Mais je vis à Nantes, et donc je me définis toujours comme nantaise, et ça m'aide.
Ce qui est plutôt intéressant, parce que étant moi aussi un peu nantaine, d'une certaine manière, un petit peu, ayant vécu 10 ans à Nantes, je me suis rendu compte que ça fait partie des quelques villes en France où, entre guillemets, c'est accepté à Paris, quoi. Quand tu dis « je viens à Nantes », tous les Parisiens, bon, pas tous, mais beaucoup de Parisiens, en tout cas un peu bobos, machin, rêvent d'aller à Nantes, soit pour y habiter, soit pour passer un week-end. Donc ça fait partie de ces villes, effectivement, qui sont plutôt bien perçues à Paris. Donc le mix Paris-Nantes fonctionne plutôt bien. Donc tu as vécu cette expérience, du coup, et tu t'es dit « ok, donc ça, c'est mort, je le ferai jamais
ouais, ». Mais ça t'a conforté de se reconnecter à la nature, donc d'une manière ou d'une autre, donc clairement le chanvre aide à ça. Besoin de donner un sens, tu vois, pas vendre des produits pour vendre des produits, créer de la consommation pour créer de la consommation, je voulais surtout éviter ça. Et la notion même de luxe, qui est de dire on va surpricer quelque chose sur le principe même qu'en fait on te vend du vent, on te vend de la marque. Alors oui, c'est peut-être pas que du vent, il y a derrière de la construction en termes de communication, etc. Mais il est où le prix réel rattaché et le besoin d'expérience?
Et sur le prix, c'est intéressant, sur ton site, tu dis en fait, c'est le juste prix, donc vous n'aurez jamais une augmentation folle ou même une réduction parce que Black Friday ou quoi que ce soit, on est au juste prix. Donc et ça, c'est vraiment les nouvelles marques comme Veja ou autre qui essayent de plus en plus de juste prix et d'arrêter cette espèce de mouvement de prix qui ne donne pas forcément de sens, en fait. Le prix est totalement décorrélé en termes de sens du produit. C'est intéressant, ces nouvelles marques qui finalement arrivent à recorréler.
Ouais.
C'était dur, ça. Remettre du sens dans le prix.
Et j'avais vu une analyse graphique de l'évolution des prix dans la mode, où en fait, tu te rends compte que plus les prix augmentent, plus le pourcentage de vente durant les soldes est importante. Et en fait, ils se sont mis dans un cercle sans fin, où comme ils vendent que pendant les soldes, ils sont obligés d'augmenter le prix de base, de départ, pour après encore plus le remiser. Et c'est un cercle où tu ne peux jamais en sortir. Et dans la cosmétique, malheureusement, pas mal de distributeurs sont rentrés là-dedans, où c'est du moins 25 en continu à minima, et souvent du moins 50. Et donc, ils te forcent, toi, en tant que marque, à surpricer au début, pour te dire, mais de toute façon, tu as 80% de ta marge qui va partir entre nous et la promo. Donc, tu es obligé de mettre ton prix plus haut. Et ça n'a pas de sens, parce que nous, on n'a pas de saisonnalité. Donc, on ne va pas d'un coup devoir déstocker la collection hiver, tu vois.
Sur le chanvre, ça se cultive toute l'année. Il n'y a pas de moment particulier.
Les semis, c'est en avril. Et ensuite, c'est récolté en septembre. Mais donc nous, on met du chanvre dans les produits, que ce soit de l'huile, des cannabinoïdes, des terpènes, enfin différentes parties de la plante, mais elles se conservent pendant l'année. Ce qu'ils font pour les graines, qui est top, c'est que nos producteurs avec qui on travaille, notamment les chanvres, en fait, ils gardent les graines tout au long de l'année, elles sont pressées à froid au fil du temps, ce qui leur permet d'avoir la meilleure qualité possible d'huile, et puis le reste est stocké. Ouais.
C'est ça que je trouve assez impressionnant, c'est que la marque que tu as créée, finalement, qui n'est pas très vieille, elle a 4 ans, je la trouve extrêmement technique, en fait. Quand je me suis baladé sur le site tout à l'heure, j'ai été très impressionné de voir que tu travaillais avec des labos, que c'était extrêmement contrôlé. Et que, alors, effectivement, quand maintenant tu dis oui, c'est des produits cosmétiques, évidemment que c'est très contrôlé. Mais c'est vrai que c'est, je le mettais au regard en fait de toute cette mode où les gens font des produits cosmétiques chez eux dans leur cuisine.
Mais ça, c'est pas légal en fait. C'est...
Oui, mais ça existe.
Oui. Mais normalement, oui. Tu sais, quand t'achètes des produits sur un marché par exemple, bah, malheureusement, ça c'est pas forcément toujours très légal. Alors, c'est pas grave, c'est toléré. Oui, parce que en fait, nous on a des enregistrements à l'échelle européenne sur des portails européens qui nous permettent de garantir. Des bonnes pratiques de fabrication, un bon sourcing, etc. Après, tu peux faire chez toi dans ta cuisine, c'est pas très très grave, tu vois, mais c'est vrai que nous, et c'est ça le problème, en tout cas moi d'un point de vue entrepreneurial, c'est qu'on s'est mis direct dans un projet industriel. Donc bah, c'est des investissements, parce que entre ta R&D et le moment où ton produit sort, il se passe 9 mois, donc il faut les financer. Ça veut dire que toi, tu achètes tout en amont, en termes de matières premières, de pack, tu finances plein de choses, donc ça c'est compliqué. Et après, on a une vraie difficulté technique qui vraiment n'est pas habituée en cosmétique, qui est le réglementaire. C'est qu'en en cosmétique, en règle générale, tu as du réglementaire sur bah, il faut que ton produit ait une innocuité qui soit prouvée, etc. Mais nous, au-delà de ça, on doit prouver qu'on est légal. On passe notre temps à essayer soit de faire bouger la loi, parce que la loi ne va pas dans le bon sens et ne permet pas ni aux agriculteurs ni aux consommateurs d'avoir une bonne protection. Soit on doit éclaircir des pans de la loi qui ne sont pas clairs du tout. On passe notre temps à faire l'éducation auprès des distributeurs qui ne comprennent rien de ce qui se passe, qui veulent tous avoir une grande feuille de cannabis quelque part sur le site web ou en boutique parce que c'est la mode, mais qui derrière ne savent pas du tout dans quoi ils s'engagent.
Ah, c'est marrant, les marques sont prêtes à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, tu viens de bosser avec, ou tu bosses encore avec Sephora.
Ouais.
Ça fait partie des questions en fait. Comment tu bosses avec les distris? Comment ils le reçoivent? Comment ils le perçoivent? Est-ce que la perception de ta marque et du coup, l'évolution du sujet dans les sociétés sur ces 3-4 dernières années, t'as vraiment senti que ça changeait? Enfin voilà, ça fait partie de on verra d'autres typologies de public à quelles t'adresses. On parlera évidemment des politiques, mais déjà sur ces distributeurs avec un enjeu plus business, j'ai deux questions. Comment ils t'acceptent aujourd'hui? Et est-ce que parfois, t'as la sensation ou pas, hein, mais que comme c'est à la mode, bah, ils exploitent un peu le filon. En plus, ça leur fait un peu de... green dans leur marque. Enfin, tu vois, est-ce que parfois tu sens qu'il y a des limites là-dessus?
En fait, si on parle que du cadre français, on va rester en France. Il y a eu un momentum l'année dernière, vers avril, quand les premiers coffee shops ont ouvert. Ça a permis d'évangéliser autour de la molécule CBD, donc, qui est l'acronyme de cannabidiol, qui est un cannabinoïde qui n'est pas du tout psychotrope, contrairement au THC, mais qui a des effets relaxants apaisants. Jusque-là, impossible d'utiliser même le mot cannabis. Avant, on parlait que de chanvre, jamais ça aurait été possible sur le pack d'écrire cannabis en dehors de la liste Inki. La liste d'ingrédients dans le dos, c'est cannabis sativa oil ou cannabis sativa herbe, suivant ce qu'on utilise. Et ça, c'est obligatoire et c'est légal. Donc nous, on a fait que le passer devant. Mais avant, on ne passait pas devant parce que sinon, enfin, clairement, tout le monde fermait ses portes. Et avec l'arrivée du CBD, et ça, c'est grâce au marché américain, clairement, il y a eu des premières ouvertures d'esprit un petit peu sur les distributeurs français. C'est encore hyper précoce. Mmh. On a la chance de travailler avec Sephora. Donc Sephora, dans leur valeur de marque, ils ont fearlessness, qui veut dire sans peur. Donc bah, ça fait partie du coup des sujets sur lesquels ils vont. Mais j'ai d'autres distributeurs qu'on ne citera pas forcément, mais qui pour eux, c'est un no-go absolu. Même si on pense qu'ils vont changer de mentalité et qu'ils vont s'ouvrir, pour l'instant, c'est vraiment juste pas possible d'en parler. Ou des gens qui te reçoivent juste pour en rigoler un peu, mais qui après disent non, mais moi, je présente pas ça à mon board, je présente pas ça à mes investisseurs, je présente pas ça à mes clients.
Comment ça s'est passé avec Sephora, la discussion? Est-ce que ça fait plusieurs années que tu es en discussion et puis là, ça s'est fait finalement? Est-ce que tu as senti qu'au départ, c'était un no-go et ça s'est ouvert? Ou est-ce que dès le début, tu t'es dit, tiens, en fait, cette marque, elle va nous accompagner un jour ou l'autre, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts pour l'instant.
En fait, je les ai rencontrés en novembre 2018. C'était pendant notre campagne Kickstarter pour le lancement de la deuxième gamme, parce qu'on a fait beaucoup d'itérations chez Ocarno. On s'est beaucoup cherché. Et là, il m'a dit, ah, c'est un peu masculin, on ne comprend pas très, très bien le positionnement. Et c'est vrai que moi, juste avant, la version d'avant était masculine et je suis plutôt aussi masculine parfois dans mes choix. Donc, je comprends totalement, notamment sur les parfums ou le look and feel. Et voilà, ils n'étaient pas super emballés. Et en fait, on est rentré dans l'accélérateur de Sephora US, qui s'appelle Sephora Accelerate. Par hasard, j'ai déposé mon dossier le 31 octobre à 11h50 pour une deadline à minuit. C'était vraiment un coup de chance. Et en fait, ça m'a permis d'aller à San Francisco avec eux, qui est clairement la ville du cannabis. Hein, c'est le temple du cannabis. J'ai beaucoup appris là-bas.
Et d'ailleurs, je mets un petit lien vers ta chaîne YouTube, pardon.
Ouais, alors qu'on a mis un peu en stand-by, mais je te raconterai pourquoi après. Et en fait, quand on aussi rentré dans le savoir accéléré parce que les gens qui sélectionnaient les dossiers, pour eux, c'était évident qu'une marque au cannabis, ça allait dans le sens de l'histoire. Et ça nous a permis de nous faire repérer de nouveau par Sephora Europe qui a dit « Hey, on peut se revoir, il y a peut-être un truc d'intérêt à faire, eux-mêmes réfléchissaient à des choses à ce moment-là, mais il fallait un peu un alignement de planète entre des marques françaises parce que lancer que des marques américaines d'un coup sur un corner, c'est étrange. Ils voulaient être sûrs aussi de ce qu'on appelle la compliance, donc d'un point de vue réglementaire, que tout soit bon. » Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, mais ça a pris, ouais, entre le premier rendez-vous en novembre 2018, on est rentré en online seulement en septembre 2019.
D'accord.
Non, pardon. On s'est vu en novembre 2017 et on est rentré en septembre 2018.
D'accord. Et comment ça s'est passé du coup ce moment où vous n'y êtes pas encore, mais c'est en discussion, tu sens que tout peut être lâché du jour au lendemain, et enfin, en tout cas, eux, ils peuvent te lâcher du jour au lendemain.
Ou... Bah, en fait, moi, j'avais vraiment...
La question, pardon, Dara, je te coupe, mais c'est vraiment, comment une toute petite marque comme ça arrive à échanger avec un mastodonte comme Sephora?
Par l'innocence. Moi, j'ai la chance d'être d'une naïveté sans nom, vu que j'avais rien fait avant, donc en fait, je découvre tout. J'ai aucun problème à parler avec du top management comme si c'était du middle management. Je suis pas du tout politique comme personne, donc juste je fais les choses comme je les sens. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Et comme j'ai cette espèce de truc où je me dis je m'en sortirai toujours, je trouverai toujours une façon. Si ça marche, c'est tout bénéf. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Donc je me suis pas mis de stress trop là-dessus. Et c'était juste une aventure humaine top parce que j'avais en mentor, dans le cadre du Sephora Accelerate, la DAF de l'époque de Sephora, qui est humainement absolument incroyable, qui s'appelle Aline Burlier. Et du coup, je profitais du chemin et j'apprenais à leur côté. Et je me disais que elle y croyait, donc pourquoi je ne pourrais pas y croire, quoi.
C'est quoi aujourd'hui Ocaran? C'est combien de personnes? Ça représente quoi comme activité? C'est quoi Ocaran?
On est une petite dizaine. 4 à Nantes, 5 à Paris, puis moi je fais les allers-retours. Moi je suis sans domicile fixe. Moi clairement je vis dans le train. Ça, c'est... Je check le contrôleur. Et non, on rigole, mais le mec de chez Paul, avant, il connaissait ma commande par cœur à la gare.
Ah ouais, d'accord.
La salade au poulet. Enfin bon, bref.
C'est vrai que c'est un milestone dans la vie. Hein. Quand tu commences à un resto ou un lieu où le mec te connaît par cœur, c'est vrai que ça commence à être un peu délicat.
Mais maintenant, j'ai arrêté la viande. Et c'était quoi la question?
La question, c'était du coup...
À quoi on ressemble?
Ouais. Ok, pour la partie RH, donc il y a une dizaine de personnes.
Ouais.
Mais tes produits aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends? Parce que comme tu l'as dit, vous avez beaucoup itéré.
Là, ça tombe bien parce qu'on vient de lancer la nouvelle gamme, c'est l'instant promo.
Vas-y.
Du coup, ce que j'ai beaucoup appris, notamment en bossant avec Sephora, mais avec les distributeurs sélectifs au final, c'est que en fait, tu peux pas juste vendre du chanvre. Tu vois, moi, j'étais passionnée de chanvre avant d'être passionnée de cosmétiques. Et donc, il me manquait ce côté un peu vernis, c'est quoi le produit que tu vends? Et il y a un truc sur lequel j'ai buté pendant très longtemps, notamment quand j'ai voulu faire des levées de fonds, c'est le problème. Mmh. Il me manquait un problème. À quel problème est-ce que je réponds?
Le fameux no pain, no gain. Non, c'est vrai, c'est ça. Si tu n'as pas de problème, alors a priori, tu ne feras pas de business si je ne réponds pas au problème d'une personne.
Et du coup, je me complaisais en me disant, non, mais c'est de la cosmétique, donc c'est un produit consumer. Mais il manquait quand même un problème et ça me bloquait dans tout. Ça me bloquait dans ma création de contenu, ça me bloquait dans le type d'événement qu'on allait sortir, dans le type de produit qu'on allait sortir. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver, en fait, un truc qui était évident pour nous, c'est que notre problème, c'était juste le stress. Et que le chanvre était un outil pour répondre au stress par des produits, par des expériences, par d'autres façons de consommer, etc. Et à partir du moment où j'ai trouvé ce problème, j'ai pu retravailler mes produits et mes expériences au global, même si elles mettront un peu plus de temps à sortir, on a des choses qui arrivent un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai d'abord retravaillé les produits pour dire c'est quoi le problème de stress chez toi. Donc on a interrogé des gens, on dit ça génère quoi? Je me sens oppressée, j'ai les batteries à plat, j'ai du mal à dormir. On a un peu listé tous leurs problèmes et donc c'est comme ça qu'on arrive à 4 gammes qui ne sont pas que des gammes de skincare, donc de soins pour la peau. Il y a aussi des compléments alimentaires, de l'aromathérapie, il y a des choses qui arrivent mais à différentes vitesses. Et chaque gamme répond à un problème de stress. Donc tu as la détox, tu as la régénération, tu as l'hydratation et tu as l'énergie. Et du coup, on travaille chaque partie de la plante pour ce problème-là. Laquelle partie peut répondre le mieux à ce souci avec des synergies avec d'autres plantes aussi.
Est-ce qu'on peut rentrer du coup dans la technique? Moi, ça m'a toujours fasciné. effectivement ces gammes autour de l'énergie et compagnie. Comment est-ce que tu travailles le chanvre pour dire à un moment donné, ça va aller sur le domaine plutôt énergétique, ça va aller plutôt dans le côté tu te ressources. Est-ce que c'est, je vais être cash, est-ce que c'est du marketing, ce qui peut être, et si c'est assumé, tout, c'est OK, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière des, je ne sais pas, des protéines, des
En fait, tu travailles sur des actifs objectivés. Si demain, je sors un produit et je dis « ce produit régénère », je suis obligée d'être, que mon produit fini soit objectivé sur la régénération.
Okay.
Jusqu'à maintenant, tout le monde travaille sur l'objectivation des actifs. Enfin, quand je dis tout le monde, je fais un petit raccourci, mais si je mets tel pourcentage de CBD, par exemple, qui est objectivé comme régénératif, mon produit régénère. Maintenant, on demande dans le nouveau cadre réglementaire, en tout cas en Europe, de dire bah, non seulement il faut avoir la bonne concentration, mais aussi faire un test qui me prouve que ton produit hydrate, apaise, régénère, etc. Donc, on fait des tests cliniques
D'accord.
qui sont encadrés par des médecins. Tu n'es pas obligé de faire encadrer par des médecins, mais comme nous, on travaille sur un actif qui est un peu touchy, bah, on préfère que ce soit encadré par des médecins. Et c'est les trucs qui te permettent de dire 90% des personnes ont trouvé que ce truc, le produit est objectivé, blablabla.
C'est intéressant parce que souvent, c'est bien que tu y répondes parce que je trouve que beaucoup dans plein de domaines, quand on a ce genre de messages, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui réellement définit les différents produits.
Alors ça, c'est ce qui est demandé de faire. Ça ne veut pas dire que toutes les marques le font.
En tout cas, c'est bien que tu le fasses avec Ocara, mais que tu sois clean là-dessus.
En fait, nous, on est un peu obligé d'être un peu plus irréprochable que tout le monde.
Ouais,
par exemple, j'avais un nom de produit que j'aimais absolument et je voulais absolument qu'il ait ce nom-là. C'était un complément alimentaire. Et on dit maintenant, mais la frontière avec le médical est trop forte. Il y a d'autres marques qui l'ont fait, sur des parfums notamment, mais si nous, on l'utilise, il y a l'ordre des pharmaciens qui vont nous tomber dessus. Mmh. Donc, on se protège un tout petit peu plus que les autres.
Tu as suffisamment d'ennemis aujourd'hui pour te dire qu'on va éviter d'en énerver d'autres. Quoi.
C'est un peu ça.
Tu parlais tout à l'heure du no-stress. Et toi, tu stresses? Elle en est où ta frontière de stress?
Tu vois la goutte qui dégouline
d'une personne de 28 ans, tu dois avoir maintenant, c'est
oui,
ça?
Oui, 28 ans.
D'une personne de 28 ans qui est à la tête d'une entreprise avec 10 personnes et des investisseurs et qui côtoie des grandes personnes. Je dis des grandes personnes parce que je me considère aussi comme un très grand enfant. Voilà.
Mais tu es très très grand, les gens ne le voient pas, mais tu es très très grand.
Assis surtout.
Moi, j'ai la chance d'avoir un niveau de stress assez plat. Ce qui fait que, à contrario, je ne suis pas quelqu'un qui a montré très très haut dans l'enthousiasme et descendre très très bas dans la déprime. Donc, ce qui est bien, c'est que j'arrive à être assez constante.
C'est que tu fais la gueule tout le temps, quoi. C'est
mais
ça
non, j'essaie de sourire beaucoup. Non, mais par contre, c'est vrai que j'oublie parfois, le fait de ne pas avoir ces ascenseurs émotionnels assez forts, j'oublie parfois de féliciter, par exemple. J'oublie de féliciter les équipes quand on fait un truc incroyable, de fêter, d'être tout en joie. Moi, je pense déjà au truc d'après, de me dire, ah oui, mais il va falloir résoudre ça.
Ça fait 3 mois que tu l'as planifié, donc pour toi, c'est
voilà, passe à autre chose. Okay. Et inversement, ça me permet de ne pas descendre trop, trop bas quand il y a des gros soucis. Bah, je suis assez optimiste, je me dis, OK, là, on a un souci, on va le régler, on passe à autre chose. Donc, je continue de dormir la nuit. J'arrive à gérer quantité assez astronomique de sollicitations. En fait, on a tout le temps des notifications. Il y a des emails, il y a des Slack, il y a des WhatsApp, il y a des WeChat, il y a des Instagram,
des podcasts. Alors que tu aurais préféré dormir une heure de plus.
Voilà. Donc, sur le stress, je pense que ça va. Si tu m'écoutes, moi, après, ma naturopathe et mon ostéo sont d'accord pour dire que mon diaphragme est beaucoup trop serré. Donc, peut-être qu'en fait, je pense gérer mon stress et que je ne le gère pas très, très bien. Et du coup, cette année, je me suis mis à l'apnée. Parce qu'en fait, j'en faisais déjà un petit peu en off. Je me faisais gronder par les maîtres nageurs sauveteurs de la piscine Gloriette. Non, parce qu'ils n'aiment pas trop quand tu... Tu sais, on a une fosse à 4 mètres et ils n'aiment pas trop quand tu...
Oui, quand tu restes au fond de l'eau, c'est pas une bonne ambiance.
Et moi, je me suis rendu compte que c'était le seul endroit avec la danse, parce que j'ai toujours continué la danse, où j'arrivais à ne pas penser au boulot. Parce que même si tu n'es pas stressé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en mode on, en continu. Tu réfléchis, réfléchis, réfléchis. Et en fait, quand tu es sous l'eau, tu ne penses pas au boulot, tu penses à ta respiration.
Mais c'est génial, mais c'est documenté ça, cette façon de faire? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui as découvert ça et...
C'est complètement empirique, mais je pense que ça peut être documenté. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais essayer d'en faire un autre niveau. Parce que quand tu vois la pratique qu'ils ont sur le souffle, etc., je me dis, peut-être que ça va me permettre de vraiment réussir à faire le vide, me calmer. Et c'est marrant parce que le premier coup, on a fait du statique. Donc, tu dois faire le mort, tu vois, et pas respirer. Et il me dit, mais détends-toi. Et il voyait que j'étais tendue parce que je n'ai pas la position de ma tête. Et en fait, j'arrivais pas du tout. J'étais meilleure en dynamique, tu vois, sous l'eau.
D'accord,
statique. Bref, passionnant.
Non, attends, moi, je trouve ça génial parce que il y en a... Enfin, On est tous dans ce truc un peu trentenaire parisien, on recherche deux trucs,
ouais.
Bien manger, c'est-à-dire arrêter de manger de la merde et sans que ça nous coûte un bras, et essayer de prendre soin de nous. C'est un peu les deux trucs du moment, parce que le reste, bah, du coup, comme depuis tout petit, de toute façon, on t'a appris que t'allais être au chômage, bah, on travaille comme des bourrins en disant bah, « de toute façon, un jour, on sera peut-être au chômage, alors faut y aller à fond ». Donc ça, dans nos têtes, c'est bien intégré ce truc-là. Par contre, ce truc de « détends-toi, prends soin de toi ouais. », c'est un vrai apprentissage du quotidien. Et je trouve ça top, en fait, parce que je connaissais absolument pas cette méthode.
En fait, moi, je suis assez sensible à tout ce qui est santé mentale du fait de travailler dans l'industrie du cannabis, parce qu'on sait que ça aide beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes mentaux ou que ça peut en créer aussi, parfois, sur, accentuer en tout cas chez des gens qui ont des sensibilités fortes. Et donc, bah, par extension, on s'intéresse aussi un peu tous à la psilocybine ou à ces molécules type champignons magiques, parce qu'on sait que ça traite des dépressions, que ça traite des syndromes post-traumatiques, etc. Donc, le sujet de la santé mentale, et en plus, quand tu travailles dans les, avec les compléments alimentaires, c'est quelque chose de récurrent aussi. J'y suis assez sensible parce que comme je suis plutôt globalement en bonne santé, mais que je sais que j'ai beaucoup de pression, j'ai fait beaucoup de lumbago aussi, par exemple. Et ça, quand tu écoutes tes ostéos, pareil, enfin, tout le monde te dit « t'as des problèmes financiers ?» Oui. T'as mal à gauche ? Oui. Bon, bah, c'est peut-être lié, tu vois. Fin...
Ah oui, attends, bah, parce que moi... ok, on s'en parlera en off, mais moi, j'ai le dos bloqué parce que j'ai une échéance dans deux jours. Et
mais
que...
c'est... Enfin, okay. Tout est lié et tu somatises beaucoup. Et même quand tu penses que tu vas bien et que tu vois, tu souris, etc., tout va bien, bah en fait, peut-être que tu intègres le stress d'une autre façon. Donc, je fais des tests sur moi-même et après, je vois comment ça peut être adapté.
D'accord. Va pas trop loin dans les tests quand même. Hein. On compte sur toi. On a parlé tout à l'heure, effectivement, des discussions, des conversations que tu pouvais avoir avec des gens plutôt du milieu. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes et ça m'intéresse. Et c'est plus sur le volet politique, t'en as un peu parlé. Hein. Tu rencontres régulièrement des politiques parce que j'ai vu que tu étais aussi, si je ne dis pas de bêtises, porte-parole du syndicat professionnel de chanvre.
Exactement.
Donc, dans ce cadre-là, pour avoir fouiné un peu sur le site internet, il y a des rendez-vous à l'Assemblée, donc tu côtoies les politiques pour essayer de comprendre. Alors, est-ce que tu vas les voir pour comprendre comment ils fonctionnent et pour voir ce qui bloque ou est-ce qu'eux, ils t'écoutent suffisamment pour essayer de changer les choses ?
En fait, la genèse du syndicat, c'était au début, on avait créé l'Institut du Chanvre, où le but, c'était d'éduquer sur le CBD, parce qu'à l'époque, personne n'en parlait, de pouvoir discuter avec l'interprofession chanvrière qui ne traitait pas du tout le sujet. Et puis, en parallèle, il y a Aurélien Delcroix qui a monté une boîte qui s'appelle Greenleaf, qui a aussi pris des initiatives pour créer un syndicat. Et puis, à un moment, on s'est tous fusionnés. Et donc, on est aujourd'hui presque une cinquantaine de membres. On a des boîtes canadiennes notamment qui pèsent plusieurs milliards qui nous ont rejoints. Et le but commun, c'est à la fois de pouvoir mettre la fleur de chanvre sur le marché, donc la fleur de chanvre qui est aujourd'hui jetée injustement par les agriculteurs, donc de pouvoir avoir des cannabinoïdes français, là où aujourd'hui on importe. Moi, j'ai du CBD dans mes produits, mais je l'importe, il n'est pas français, ce qui n'a aucun sens. On a de l'huile, des terpènes qui sont français, mais on n'a pas les cannabinoïdes. Et à la fois, protéger le consommateur. Puisqu'en fait, quand tu n'as pas de cadre réglementaire, bah, c'est quoi une charte d'un bon produit à base de CBD ? Est-ce qu'il est bio ? D'où vient la provenance ? C'est quoi les techniques d'extraction ? C'est quoi les concentrations ? À quel seuil on est en bien-être ? À quel seuil on est en thérapeutique ? Ce n'est pas les mêmes sujets. Donc, pour encadrer ça, protéger le consommateur et une protection économique de nos agriculteurs, puisqu'on sait aujourd'hui que la plus grande valeur ajoutée est dans la fleur et qu'on leur demande de les jeter. Quand on connaît la situation des agriculteurs en France, on se dit qu'il y a quand même un souci dans notre façon de gérer les choses. Et du fait de la libre circulation des biens et des marchandises, de toute façon, il y a du CBD en France, c'est juste qu'il n'est pas français. Donc c'est plusieurs raisons pour lesquelles on s'est allié pour créer ce syndicat professionnel, parce qu'on savait aussi qu'on avait beaucoup de ce qu'on appelle des legal papers et des legal opinions à sortir avec des gros cabinets d'avocats. Ça coûte très cher. Donc, au début, on a mutualisé des ressources pour sortir ces papiers-là qui nous protègent, qui expliquent le cadre et pourquoi nous, on arrive à s'insérer dedans, parfois plus ou moins bien. Et ensuite, on a du coup été missionné des lobbyistes, tout simplement. Donc, on a un secrétaire général, un directeur général qui est lobbyiste. Ils sont deux maintenant pratiquement à temps plein sur ce sujet-là avec nous.
Et alors, les discussions avec les politiques, ça tourne autour de quoi ? De la santé, de l'agriculture, des enjeux de société, des enjeux de, presque de business ?
En fait, on va voir à la fois aussi bien des ministères que d'autres organes étatiques qui ne sont pas forcément régaliens, mais qui, quand ils ouvrent la bouche ou écrivent un papier, ont quand même du poids. Donc, c'est important de les convaincre. Le but, c'est déjà de mettre tous les acteurs autour de la table, de soulever un problème, parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas le problème. Donc, on va aussi bien, en effet, rencontrer la santé que l'économie à Bercy. On va à la justice, enfin aller voir un peu tout le monde pour dire bah, voilà le cadre réglementaire aujourd'hui, voilà celui qu'on souhaiterait demain, comment est-ce qu'on peut tous avancer ensemble pour aller dans la bonne direction. Après, il y a des missions d'information qui sont lancées, comme avec Jean-Baptiste Moreau, c'est pour ça qu'on était à l'Assemblée nationale, où là, ben, les parlementaires, les sénateurs se saisissent des sujets et vont eux-mêmes éduquer les autres parlementaires et sénateurs.
Est-ce que tu sens que ça bouge et que c'est audible ou ça devient audible comme message ?
Ça devient audible, ça a mis... Là, on s'est alliés il y a presque 2 ans maintenant, ça a mis énormément de temps... Mais on va dans le bon sens. Le problème, c'est que parfois, pour des agendas politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, il y a des choses qui surviennent d'un coup, des gens qui se positionnent alors qu'ils ne devraient pas. C'est toujours un peu le bordel. Moi, j'ai découvert la politique à ce moment-là. Clairement, je n'en ferai pas mon métier. Mais par contre, c'est passionnant. Enfin, j'apprends, mais alors s'il y a bien un champ sur lequel j'apprends tous les jours, c'est ça. C'est, je suis coachée déjà de la manière dont on articule les arguments, c'est des petits pas, parfois tu as l'impression d'aller en arrière, mais en fait tu gagnes 2 pas après. Enfin, c'est assez passionnant, c'est une vraie technique, le lobbying. Parfois à tort, parce qu'il y a certains qu'on monte du doigt en disant ces affreux lobbyistes, et puis ben, nous on estime qu'on est dans notre intérêt, et du coup c'est du bon lobbying, c'est toujours très subjectif. Mais en tout cas, c'est utile, parce que sinon il y a plein de sujets qui avanceraient pas. Clairement, c'est pas à l'ordre du jour de Matignon aujourd'hui, donc si on pousse pas, bah, ça avance pas. Et puis, c'est comment est-ce que dans l'opinion publique, tu arrives en parallèle à faire venir des sujets via des sondages, via des unes à droite, à gauche.
Mais alors toi, comment ça changerait au Caran si demain, il y avait une meilleure compréhension du sujet et que on assouplissait un petit peu la loi ?
Eh bien, un outsourcing, toutes les matières premières chambres seraient françaises. Quand on, enfin, là, on parle...
En fait, il y a un truc qui me dépasse. Comment ça se fait que tu peux importer des choses que tu ne peux pas produire ?
C'est l'analogie que je fais, c'est l'œuf et la poule. Les œufs sont autorisés, mais les poules sont interdites. Du coup, comment tu fais pour avoir des œufs ? Tu vas les chercher à l'étranger.
D'accord.
Ça, c'est vraiment, mais c'est la folie de la loi. Enfin, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire sauter, c'est 2 parenthèses. Qu'on se dise bien les choses. C'est 2 parenthèses qui, en gros, disent que dans le chanvre, on utilise, entre parenthèses, la tige, la graine. Et du coup, elle est où la fleur ? Bah, l'interprétation qui est faite par certains juges, c'est que du coup, la fleur est totalement illicite. Et puis, tu vas aller 300 km plus loin. Et puis, tu as un juge qui dit « Oui, bon, ça va. » Et du coup, pour exactement le même sujet, tu as des boutiques qui vont se faire fermer. Tu as des entrepreneurs qui se retrouvent en garde à vue. Enfin, c'est vraiment c'est 2 parenthèses. Et ça, c'est un décret dans tout le code de la santé publique.
Oui, et puis en France, on peut du coup pas profiter des bienfaits de cette plante pour des raisons médicales.
Il y a plein d'autres bienfaits, mais en tout cas, il y a quelques bienfaits malheureux sur lesquels on peut pas se positionner.
C'est intéressant, quand on regarde tes vidéos sur YouTube, il y en a une où on en a parlé un peu en off avant de débuter, où il y a une personne qui a, alors tu connais beaucoup plus les termes que moi évidemment, une espèce d'endroit avec je sais qu'il y a un nom pour ça, je l'ai oublié.
En fait, c'est un dispensaire.
Un dispensaire,
donc c'est un endroit où tu peux acheter des produits médicaux ou bien-être autour du cannabis ou récréatif. En fait, il y a, juste pour que ce soit clair, il y a 3 types de cannabis. Le cannabis récréatif, donc tu fumes, tu fumes ou tu consommes type edible, ce que tu manges. Il y a des psychotropes dedans, donc du THC. Tu as le bien-être, donc nous, on se positionne sur le bien-être. Pas d'effet psychotrope, donc pas de THC. Et tu as le médical, qui est souvent une alliance THC ou autre cannabinoïde. Et donc, elle vend ces 3 types de produits. Et elle cultive sur place. C'est rare.
On voit effectivement une espèce d'endroit, entrepôt, où il y a plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantations. Et elle raconte effectivement qu'elle est tombée du 6e étage, je ne sais plus où, non, peut-être pas, non, peut-être du 2e étage. Et qu'en tout cas, elle n'arrivait plus à marcher. Et que d'un coup, elle est allée dans un lieu où elle a pu consommer. Et qu'elle est sortie en marchant et que tout va bien. Et qu'aujourd'hui, elle te parlait parce qu'elle avait réussi à avoir accès à ce produit-là. Moi qui n'y connais absolument rien, est-ce que réellement cette plante a des effets incroyables sur la santé et que c'est vraiment excessivement dommage de ne pas s'en servir ?
En fait, ça dépend si tu as une pathologie. Okay. Si tu prends quelqu'un, par exemple, qui a un épileptique, notamment sur le syndrome de Dravet, donc là, on est plutôt sur les jeunes enfants, c'est scotchant le résultat avec du CBD. Il n'y a pas de THC dans les huiles sublinguales qu'ils utilisent. Ça leur change fondamentalement la vie quand tu vois les effets... les effets même en termes de développement neuronal d'un enfant épileptique, c'est quand même assez scotchant de voir l'effet du cannabis. On a sur aussi des gens qui ont Parkinson ou sur la sclérose en plaques. Excuse-moi, il y a des vraies études qui montrent des améliorations de la condition vraiment très très fortes.
Et ça, les politiques, ils l'entendent.
Enfin, ah oui, oui.
Ils voient ces résultats et... T'inquiète pas, ce sera coupé au montage. Ou pas, je ne sais pas.
Je suis malade.
Pardon, en plus je te fais parler. Mais promis, il reste encore un quart d'heure après.
Après, je vais dormir. Non, non.
Est-ce que les politiques, ouais, ils l'entendent ça?
Ouais, il y a un passage que j'adore dans... France 3 a sorti un reportage il n'y a pas très très longtemps qui suit notamment des chanvriers de la Creuse et un politique hyper engagé là-dessus et qui nous soutient beaucoup. Et à un moment, tu as ce passage où on est à l'Assemblée nationale pour le colloque et tu as Véran, donc, qui est un médecin à la base et qui est aussi élu et qui s'arrête et qui dit « Je vous préviens tout de suite, je suis à fond. » Parce qu'il explique des patients, les évolutions qu'il a vues, à quel point il y a des gens qui étaient dans ce qu'on appelle un échec thérapeutique. Et d'un coup, il lui prescrit plus rien parce que de toute façon, il n'a plus de solution. Et le mec revient quelques semaines après en lui disant « j'ai testé le cannabis et regardez, je me sens vachement mieux. » Et de manière empirique, oui, c'est vrai. Enfin, même, je dis empirique, mais on a plein d'études derrière qui sont backées par des professeurs comme Raphaël Meshulam, qui est dans une des vidéos, c'est le professeur qui a découvert le THC en 1964. Entre-temps, il a fait des études sur l'épilepsie, sur Alzheimer. Enfin, il a fait plein d'études et le problème, c'est qu'on ne lui donne pas la voix. Quoi.
Est-ce que tu arrives à donner une date, toi, hein, en disant je pense que d'ici, je ne sais pas quelle date, a priori, on devrait voir arriver ce genre de produit sur le marché?
Ouais, alors le médical, l'avis favorable de l'ANSM, c'était le 26 juin. Donc là, on est en phase de construction de l'expérimentation. Combien de patients, comment, supervisé par qui, etc. Du coup, il nous donne un horizon à 2 ans, ce qui est gigantesque quand on sait qu'en France, en fait, on est carrément l'un des derniers pays européens à avoir autorisé le médical. Enfin, il y a des gens qui meurent quand même. On est sur un sujet qui est quand même assez sérieux. Il y a des gens qui sont dans des souffrances terribles sur lesquelles ils n'arrivent pas à trouver de solution et qui sont obligés soit d'aller se fournir à la frontière, soit d'être dans un cadre illégal de récolte. Enfin bon, c'est quand même dommage. Surtout quand on voit qu'on a la morphine, tu vois, la morphine dont le niveau d'addiction aux opioïdes est quand même beaucoup plus important que le cannabis. Donc bon, a priori, on serait parti sur 2 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que le bien-être, donc c'est-à-dire exactement la même chose, mais sans THC, donc normalement, c'est quand même moins compliqué à mettre en œuvre, passe au même moment, parce qu'il n'y a pas de raison que, du coup, on soit obligé d'aller importer du cannabis thérapeutique du Canada ou d'Israël, parce qu'on n'a pas le droit de le produire en France. On ne veut pas non plus que cette filière, elle aille dans les mains de l'industrie pharmaceutique, comme c'est le cas de l'œillette et du pavot aujourd'hui, qui servent à faire également de la morphine. Donc voilà, on travaille là-dessus. 2 ans, c'est long, mais bon, on espère que ça sera un peu avant. Et pour ceux qui me demandent souvent sur le récréatif, là, c'est hyper dur de donner une échéance. J'ai pas trop envie de jouer aux oiseaux de mauvais augure. Ce qu'on pense un petit peu dans le milieu, c'est qu'il va falloir attendre de changer de gouvernement. Ça pourrait quand même être une bonne mesure pour Macron pour récupérer un électorat de gauche s'il veut se faire réélire, mais... Pour l'instant, ils sont en tout cas...
Bravo les raccourcis, c'est à gauche que ça fume le plus, très bien.
Non, mais c'est malheureux, mais c'est ce qui se dit aujourd'hui chez En Marche. C'est que leur électorat plutôt à droite n'est pas pour, mais à gauche un peu plus. Alors peut-être on va faire des concessions, ni oui ni non, on n'est pas pour, on n'est pas contre.
En même temps.
Ah voilà, c'est ça.
Comment tu le vis, toi, ces deux casquettes à la fois de responsable de Caran et en même temps avec un rôle politique très fort au sein du syndicat? Arrive à partager ton temps, ou est-ce que tu te dis finalement ça va dans le même sens et donc
Pour moi, ça va complètement dans le même sens. En termes de volume, le lobbying, c'est 10% de mon temps, à peu près. Parce que je suis obligée... En fait, pour que le lobbying marche, il faut qu'il y ait des adhésions. Pour qu'il y ait des adhésions, il faut qu'il y ait des gens qui fassent du chiffre d'affaires. Donc si Ocaran ne marche pas, je ne vais pas pouvoir donner les moyens au syndicat d'avancer. Donc c'est important. Je monte. Ça peut arriver sur certaines semaines quand j'enchaîne deux rendez-vous pour ça de passer un peu plus de temps que prévu, mais je suis obligée quand même de rester très focus sur moi, ma boîte, parce que c'est ça qui fait aussi que les choses avancent, c'est les consommateurs qui se saisissent du sujet. C'est un peu plus en off ce qu'on fait avec le syndicat, on médiatise ça dans nos cadres très fermés, en fait, mais le grand public, ils sont au courant de rien. Par contre, quand avec Ocaran, on fait une masterclass où on édite un article de blog, où on explique un petit peu plus les choses sans être trop activiste, parce que parfois ça fait peur aux gens. Là, on bénéficie aussi à la cause, donc c'est un équilibre des forces. Mais c'est cette partie lobbying qui donne aussi vachement de sens à ce que je fais chez Ocaran. Sinon, j'aurais l'impression d'être qu'une marque de cosmétiques. Et il y en a plein des marques de cosmétiques.
Mais alors, quelle transition. Justement, je voulais te parler des autres marques, plutôt l'international. Mmh. Est-ce que tu as des Ocaran-like, donc des boîtes qui ressemblent à Ocaran, des entreprises, pardon, où tu t'es inspiré de ce modèle-là, qui t'inspire? Et est-ce que tu les as découverts avant de lancer Ocaran, ou est-ce que c'est justement en voyageant, en allant dans des incubateurs, que tu te dis « en fait, je ne suis pas toute seule à avoir cette idée-là » quoi.
J'ai pas pris une marque que j'ai copiée. J'ai découvert pas mal de marques sur le milieu du cannabis à Los Angeles, notamment. Après, en fait, il y a des marques qui... On dirait qu'elles nous ressemblent parce qu'elles vont aussi être chez Sephora. Je pense à High Beauty notamment, où ils ont des packs verts et ils sont chez Sephora. Mmh. Mais en fait, le concept, on ne vise pas du tout le même persona. On n'a pas du tout les mêmes envies en termes d'expérience. Et petit à petit, on va de moins en moins se ressembler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être une des marques qui nous ressemble le plus parce que bah, on est chez Sephora et on est vert. Mais ils sont verts et roses, ils sont très girly, ce qui n'est pas trop notre cas. Mais sinon, il y a quelques marques qui m'inspirent beaucoup et c'est notamment ceux qui ont eu une démarche hyper activiste, qui se sont lancés quand au début, il n'y avait pas grand monde et qui ont été faire de l'éducation. Il y a Lord Jones notamment, qui a vraiment été avec ses petits bras démarcher tous les distributeurs, expliquer. Enfin, ils ont ouvert la porte à plein de gens. Alors eux, ils font aussi bien ce qu'on appelle des edibles, donc des petites gommes que tu manges, que des crèmes ou des huiles sublinguales. Sur toute la dimension sex care aussi, il y a plein de marques que je trouve monstrueuses. Donc c'est souvent tourné autour de la femme, de ce que les Américains appellent le woman empowerment. Et l'industrie du cannabis, au début, un peu moins maintenant malheureusement, avait mis un peu plus les femmes au centre en disant bah, « Ok, on crée une industrie de zéro, bah, peut-être que c'est normal que sur des positions hiérarchiques élevées, il y a un mix homme-femme, qu'on ne se retrouve pas avec que des boîtes dirigées par des hommes et aussi qui répondaient à des problèmes de femmes. Donc sur ces boîtes de sex care, tu vas avoir beaucoup de choses liées autour du plaisir, comment est-ce qu'on peut stimuler le plaisir féminin, ou des choses liées à la douleur, comment est-ce qu'on peut diminuer par exemple l'endométriose, les douleurs liées à l'endométriose ou plus les règles au sens un peu plus large. Donc ça, c'est assez inspirant parce qu'ils sont très très bons en contenu, c'est un sujet compliqué qu'ils ont réussi à démocratiser. Tu vois, t'as une plante qui est hyper stigmatisée, t'as un type de produit qui est aussi hyper stigmatisé, qui pendant longtemps était vendu dans les sex shops ou dans des vieux sites hyper dark sur le web. Et ils arrivent à mélanger les deux, en faire un truc hyper glamour que t'as trop envie d'avoir dans ta salle de bain ou sur ton chevet. Donc je trouve que c'est assez inspirant.
Toi, tu rencontres ces problèmes-là quand tu veux communiquer sur Okaran? Tu sens qu'on te met des barrières dans ta communication parce que justement, c'est pas encore... Enfin, il y a un flou artistique, à la fois culturel, à la fois politique, et du coup, on n'arrive pas à se positionner.
Ouais, il y a les méchants zozos de Google et Facebook qui n'arrêtent pas de m'embêter. Nous, au début, très très naïvement, je pensais qu'on serait ce qu'on appelle direct to consumer, donc vendre en direct sur notre e-shop. Et puis, bon, quand on a lancé la campagne Kickstarter qui a été fermée deux fois à cause du cannabis, Indiegogo pareil, que toutes mes campagnes Facebook ads ont été bloquées, là j'ai compris qu'on allait changer un peu de stratégie de distribution. Et depuis, c'est toujours pas réglé. Il y a des boîtes aux US qui ont fait des procès à Facebook là-dessus en disant, mais en fait, vous nous mettez... En plus, Facebook est quand même à Palo Alto, en Californie. Donc, tu dis, il pourrait avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, mais c'est du puritanisme américain vraiment premier degré.
Je sais pas si t'es déjà là à Palo Alto, mais c'est quand même les bonnes maisons bourgeoises qui se suivent. Non, on n'est pas du tout sur la culture de San Francisco. C'est la bonne ville... Ouais, c'est ça, un peu dortoir, quoi.
Ouais. Mais nous, ils nous cataloguent avec les armes et le porno à chaque fois. C'est hyper fatigant, tu vois. On rentre toujours dans ces critères.
Et donc, du coup, donc Google YouTube et votre chaîne.
En fait,
du coup,
ça a été hyper compliqué. Donc, on a un compte Facebook, mais on ne peut pas sponsoriser. On a un compte Insta, mais on ne peut pas sponsoriser. Donc, tu grandis de manière organique, mais c'est très, très long pour des boîtes, surtout avec les algorithmes qui sont faits pour tout faire, pour que tu payes, pour que tu grossisses.
Exactement.
Donc, ça prend un temps de dingue. Et après, donc, on s'est dit, on va lancer une chaîne. Bon, l'histoire de la chaîne YouTube, c'est aussi parce que ça me faisait marrer. Mais en gros, j'étais allée à Canatech, qui est un salon dédié au cannabis à Londres, en novembre 2017. Et là, je m'étais rendu compte que j'étais la seule petite nana, pas en costard. Et clairement que je détonnais, j'avais mes petits produits avec moi et je les montrais à tout le monde sur les stands. Genre, qu'est-ce que vous en dites de cette crème et tout.
T'étais un peu une dealeuse, quoi.
J'étais un ovni. En tout cas, je ne correspondais pas. Parfois, quand je fais des salons du cannabis, les gens s'imaginent des trucs un peu à la Spanabis, avec beaucoup de fumée. Alors, pour le coup, là, on va sur des salons un peu plus techniques, financiers ou médicaux. Et je me disais, ça serait... En fait, finalement, les gens venaient me parler parce que, justement, je ne ressemblais pas aux stéréotypes. Et je me dis, c'est peut-être intéressant de montrer un autre visage, proposer une autre voix et expliquer c'est quoi ce monde improbable dans lequel on est en train d'évoluer. Et il y a 3 ans avant, tu m'aurais dit, tu seras là-dedans. Je dis, non. Et donc, j'ai pris une caméra, j'ai mis un petit micro sur mon téléphone et je suis allée après à Canatech Israël pour la première fois. Et là, j'ai commencé à interviewer les gens. Et c'était trop cool parce que ça faisait une excuse pour parler à tout le monde. C'était persuadé que j'étais journaliste. Mais moi, ça m'a complètement désinhibée parce que j'étais pas du genre à être capable de me prendre en selfie ou quoi que ce soit. Et là, d'un coup, tu te retrouves à parler devant la caméra dans l'aéroport, à dire « Bon, là, je suis là, je fais ça. »
Oui, c'est vrai que ça donne un but, quoi. C'est, vrai, c'est moins le côté...
Jamais je l'aurais fait sinon, quoi. Et puis, t'as Maris Pocam qui disait « Oui, mais alors là, il me manque des images de transition, filme-toi. » Alors, je me filmais à rien faire. Et là, c'est un bon exercice, en tout cas, pour sortir de soi.
Et puis à l'étranger, c'est plus facile parce que du coup, tu sais qu'a priori, tu connais personne.
C'est plus facile. Et puis quand tu parles en français, alors que personne ne comprend, tu dis bon, prends-moi pour une délurée. Ouais, j'avoue que j'ai vachement plus de mal à le faire en France. Et en tout cas, ces vidéos, le but, c'était vraiment de montrer ce que c'est l'industrie du cannabis, montrer ses professeurs, ses entrepreneurs, expliquer, en fait, déstigmatiser tout ça. Donc on s'est fait chier à faire du contenu quand même de bonne qualité, des vidéos très, assez très longues et tout. Ah ouais. Et on en a fait 3 un peu pilotes pour voir. Et moi, derrière, j'ai de la matière pour faire 6 épisodes. En vrai, j'ai été interviewée, mais tellement de gens. J'ai le fonds d'investissement de Snoop Dogg, on l'a jamais passé. Enfin, j'ai plein de trucs que je trouve chouettes. Mais le problème, c'est que donc, on a sorti les 3. Et là, quand on a voulu le faire connaître à la presse, le diffuser, bon, déjà, on ne pouvait pas le sponsoriser, nous, de notre côté. Et personne n'avait envie d'en parler. Parce que les influenceurs, ils ne veulent pas en parler. Ils trouvent que ça les met dans une position un peu... je promeux la fumette. Alors que c'est pas...
C'est quasi une prise de parti politique aujourd'hui d'affirmer ça. Quoi.
Ouais. Les journalistes ne voulaient pas en parler parce que soit ça les gênait que ça soit raccroché à une marque. Ils auraient voulu que ce soit Laure Bouguin toute seule de son côté. Soit ça les mettait dans un truc hyper partisan. Va, il se trouvait qu'on était trop... trop bon élève, trop bonne famille, c'était pas trash, ils soutaient, enfin, je crois qu'ils...
Il manquait un unijambiste quelque part.
Ouais, ou je fumais pas des gros winches, tu vois.
Oui, c'est ça.
Il manquait quelque chose. Et du coup, on a fait les 3, on a vu un peu l'impact vs l'effort mis. On s'est dit, bon, soyons lucides, on va dépenser moins de temps, parce que ça prend un temps de dingue à tout filmer, tout dérusher. Enfin, parfois, j'avais 4-5 heures de rush où j'allais retranscrire en anglais le texte pour que derrière, les gens puissent faire les montages, écrire les scénarios. Okay. Enfin, ça nous prenait vraiment un temps de fou. Et on a dit, bon, on laisse ça en stand-by. Et puis, le jour où ce sera possible, on s'amusera. Du coup, on fait des cannabis masterclass, on fait d'autres trucs, quoi.
Tu les fais à Paris ? C'est quoi ? Quand est-ce qu'on peut te voir ?
Demain.
On peut te voir et quand ?
Demain,
alors,
demain,
alors malheureusement, demain. le podcast n'étant pas en direct, nous sommes le 15 octobre et je pense que ce podcast sera diffusé début janvier.
Début janvier ?
Je sais pas encore. Alors, peut-être que vous nous écouterez en novembre ou peut-être que vous nous écouterez, je sais pas encore. Peut-être que je vais commencer à diffuser en novembre. C'est juste qu'il y a la fameuse moment charnière qui est Noël. Et donc, si je diffuse ça en décembre, j'ai peur que tout le monde passe à autre chose. Ou alors, il faudrait que j'invite le Père Noël, du coup. Mais, donc, je me dis qu'en janvier, les gens sont plus disponibles pour écouter. Je sais pas, peut-être faire un sondage. Sur...
Bon, en janvier, je sais pas quand on en fera. Mais en tout cas, là, par exemple, on a un pop-up et du coup, on fait venir une naturopathe où on a tout un exercice de méditation pour déstresser, des conseils liés au stress. Et après, du coup, j'explique la plante, pourquoi, comment, etc. On va le faire à Nantes aussi parce qu'on a un pop-up à Nantes qui arrive pour Noël.
Quand tu dis un pop-up, c'est quoi ?
Un pop-up, c'est... tu vois le passage Pommeré ?
Alors, pour les... Moi, très bien, mais pour les auditeurs, c'est un passage, un peu comme tous les passages
à Paris. Un peu commercial.
Ouais.
Et du coup, il y a une sorte de boutique qui est vide, et donc on va être plusieurs marques à se mettre dedans. Donc, il y a Mathilde Cabana, qui est illustratrice. Il y a Carzon, qui font des parfums, des senteurs d'intérieur. Il y a une marque de brosse à cheveux aussi. On est 4 marques en tout. Et du coup, le 5 novembre au 31 décembre, on présente tous nos produits...
Trop bien.
Et donc, nous, on en profite pour faire aussi des ateliers avec les Nantais, parce qu'il ne faut pas les oublier. On a nos bureaux là-bas.
Bah oui, quand même.
Mais parfois, ils disaient, et on vous achète tout à Nantes. Et là, on n'a plus de boutique en ce moment à Nantes. Du coup, c'est hyper frustrant de ne pas avoir un endroit où...
Mais en ligne, on ne peut pas acheter du tout ?
Bien sûr que si, mais il y a plein... C'est sensoriel, la cosmétique, dont les gens veulent tester.
Ok. C'est quoi la suite pour Ocaran ? Non, je vais commencer par... C'est quoi la suite pour toi ?
Là, après, normalement, j'ai un cours de yoga.
Okay. Non, mais comment tu vois, est-ce qu'aujourd'hui il y a des sujets que tu abordes et tu te dis demain j'ai plus envie de les aborder, ou à l'inverse, oui. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu dis, un peu comme la chaîne YouTube à la limite, de dire voilà, il y a des choses sur lesquelles je sais que j'ai pas le temps d'y aller, mais il faut que j'y aille et ça me fait plaisir, mais c'est juste que j'ai pas le temps aujourd'hui.
À titre perso, moi je sais pas très bien où est-ce que je vais habiter dans quelques mois, ça dépendra. Aujourd'hui, en fait, 70% de notre chiffre d'affaires on le fait à l'export, avec l'Espagne en premier pays. Et je veux vraiment consolider la France et qu'on ait une boutique en France. On y travaille pour ouvrir d'ici fin 2020 une boutique avec une vraie expérience autour du no-stress en France. Mais j'ai pas l'impression que c'est là où on va réussir à se développer le plus. Du coup, un jour, si on est amené à devoir développer ailleurs, c'est sûrement moi et mes petites jambes qui vont devoir y aller. Donc pour l'instant, j'ai mon appartement à Nantes. Là, je suis en train de chercher un endroit où dormir à Paris. Parce que...
Il faut faire des prises de sang pour Paris. Tu le sais, c'est une prise de sang de nos agents immobiliers pour à peu près être sûr de valider qu'ils peuvent te louer un truc pour
moi. Et ouais, moi, je voulais dormir dans notre bureau, mais on peut pas. On est chez WeWork, ils ne mettent pas de lit. Et je ne sais pas dans 6 mois où est-ce que je serai.
Peut-être à Barcelone ou à Madrid, du coup, si c'est l'Espagne qui se développe.
Mais, a lo mejor.
J'ai très envie de finir ce podcast-là. En tout cas, Ocaran, ça va se développer dans les prochains mois, les prochaines années. Le syndicat aussi. Et puis voilà, c'est dans 2 ans. Là, tu as une course-poursuite pendant 2 ans. On pourrait être prêt dans 2 ans.
C'est ça.
Merci beaucoup, Laure.
Comment on dit au revoir en breton?
Je sais pas.
Kenavo.
Ah, évidemment. Et bah, Kenavo à tous. Merci, Laure. Ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Qui sait, ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.